Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Bonne écoute.
Quelques minutes, nous arriverons en gare de Brest, le terminus, avant de descendre. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Je vous rappelle que la descente du train se fait sur un quai et à l'arrêt. Veuillez en aucun cas descendre lorsque le train est en mouvement. Et SNCF et tout équipage du TGV, oui, vous souhaite une bonne journée.
Dans le ventre de Cléopâtre d'Arles. Dans le ventre de Cléopâtre d'Arles. Cléopâtre d'Arles.
Dans le ventre de.
Dans le ventre de Cléopâtre d'Arles.
Bienvenue à Brest pour ce nouvel épisode de Dans le ventre avec Cléopâtre d'Arles. Cléopâtre est une joueuse française de handball. Je l'ai découverte cet été à la télé pendant les JO que j'ai suivie comme une folle. Il faut dire que l'équipe a gagné tous ses matchs jusqu'à devenir championne olympique. J'ai aussi découvert que le hand est un sport complètement addictif. Les joueuses passent leur temps à dribbler et à marquer des buts. Je me disais en regardant, mais quelle pression d'être dans les goals! J'ai donc eu envie de rencontrer la Goal Star pour lui poser plein de questions. Cléopâtre joue dans l'équipe du BBH, Brest, Bretagne, Handball. Et ça tombe bien, elle a aussi ouvert depuis quelques années un restaurant italien, Il Castello. C'est là qu'on se retrouve.
Et Cléopâtre, je suis trop contente de te rencontrer parce que j'ai suivi les Jeux Olympiques comme une folle cet été.
C'est vrai? Ah bah merci, ça fait plaisir.
Tu vois, j'y connais pas grand chose en sport collectif, je pense en règle générale. Et là, j'étais à fond derrière votre équipe, quoi.
C'est vrai. Bah, c'est vrai que j'ai eu énormément de retours. En fait, on a eu un parcours assez particulier parce qu'on n'a pas très bien commencé. Et au final, au fur et à mesure de la compète, c'est vrai qu'on a. Bah, on s'est un peu réveillé, quoi, je dirais. Et c'est vrai que sur la fin, j'ai eu énormément de retours de gens qui ont kiffé notre parcours. Mais en même temps, bon, une médaille d'or, de toute façon, enfin, c'est exceptionnel. Pour nous aussi, c'est un énorme souvenir. On est hyper heureuse de ce moment-là.
Je pense que l'équipe, elle avait l'air assez soudée aussi. Il y avait un truc beau à voir, quoi.
Bah, c'est vrai. À partir du moment, en fait, on a eu un déclic. Quand y avait le match, un dernier match couperet contre le Brésil, et on s'est réunis entre nous et on a eu vraiment un gros déclic de cohésion, et comme si après ça on a décollé. Et j'ai des souvenirs dans la tête qui viennent, et c'est que les moments de fête après les matchs quand on dansait, on chantait, et c'est vrai qu'il y avait une vraie âme sur cette compétition.
Toi, t'es née en Alsace ?
Oui, c'est ça. Je suis née à Mulhouse. Je viens d'une fratrie, on est 9 en tout, donc c'est vrai que c'était mouvementé, que ce soit sportivement, même à l'école, on est toujours là les uns pour les autres. Donc c'est vrai que j'ai que des bons souvenirs de mon enfance.
Et t'as des souvenirs de ce que tu mangeais quand t'étais enfant ?
Alors, j'ai des souvenirs. Ma mère, elle aimait bien faire à manger. Elle a travaillé un peu dans les centres aérés aussi quand elle était plus jeune. Et du coup, on avait un peu les grands plats, en fait, de centres aérés énormes. Donc, sa spécialité, c'était les lasagnes. Elle aimait bien faire ça. Donc, on adorait ce plat-là.
Donc, les lasagnes. Et toi, tu étais une petite fille gourmande ?
Gourmande, oui. Alors, quand j'étais petite, je détestais les légumes. Je mangeais, mais limite, on restait 2-3 heures à table parce que moi, je voulais pas manger. J'étais tellement têtue que c'était impossible de me faire manger mes légumes. Et je me souviens, j'ai même des vidéos là-dessus où je fais vraiment la tête, quoi, pour des carottes. Et je fais comme ça, comme si j'étais en train de les cracher, quoi. Enfin, c'est trop rigolo. Donc, ouais, petite gourmande sur tout ce qui est, je pense, plutôt sucré. Et après, par la suite, avec l'âge, hein, on apprend à aimer les légumes.
Et t'as fait du sport assez tôt ?
Ouais, j'ai fait du sport assez tôt. Alors, on a, avec mes sœurs, donc on était 5, les filles, on a fait de la GRS, donc la gymnastique rythmique, là, sportive. Et après, on est tous allés au judo. On a fait du judo les 5 en même temps. Et j'ai une de mes sœurs, du coup, qui a commencé le hand. Elle avait, du coup, 8 ans. Et après, je l'ai suivie. Et du coup, les 3 sœurs, on est partis dans le hand et les garçons au rugby.
Et à quel moment ça a commencé à être une éventualité que ce soit ton métier ?
Alors c'est, je dirais, quand j'ai commencé à faire tout ce qui est détection départementale, c'était pas encore trop ça, parce que pour moi c'était énorme déjà d'être en sélection du Haut-Rhin. Et après régional, après j'ai suivi ma sœur, mon aînée, l'aînée du coup Ellie, qui est allée en sport-études, donc en classe de en seconde. Et ma sœur a été détectée pour aller en centre de formation à Besançon. Pareil, du coup, un an après, je l'ai suivie, j'ai été aussi un peu détectée. Et c'est là que j'ai été confrontée au plus haut niveau, parce que le centre de formation, on s'entraînait de temps en temps avec l'équipe 1, qui était en première division à l'époque, et où on les voyait s'entraîner en tout cas. Donc on voyait vraiment des matchs de haut niveau, des joueuses professionnelles, quoi.
Et là, tu pars à Besançon, donc tu pars aussi loin de... Tu pars de ta maison à ce moment-là.
Ouais. Ouais, c'était pas non plus hyper loin, mais 1h30 du coup. Donc j'étais en semaine à l'internat, et le week-end, j'étais avec ma sœur, elle avait un petit studio.
Vous n'avez pas la fête le week-end ?
Si, franchement, j'ai quand même découvert un peu ce monde de la fête, parce qu'en tant que sportif, on fait quand même la fête, il faut le dire. Hein. C'est là qu'on découvre, après les matchs, un peu boîte de nuit. Donc j'ai quand même découvert ça à cet âge-là.
Et inversement, quand tu es sélectionné et que tu commences à te diriger vers une carrière professionnelle comme ça, est-ce qu'il y a un changement de ton alimentation, en tout cas un contrôle de ton alimentation qui se fait ?
Oui, indéniablement. Alors après, au début de ma carrière, je ne l'avais pas forcément ressenti parce que je faisais un peu moins attention. Mais à partir du moment où j'étais en centre de formation et après pro, j'ai signé à 18 ans en tant que professionnelle, on nous pesait plus régulièrement. Du coup, tu commences à... Enfin, c'est compliqué quand on te pèse, tu te sens... tu te sens pas forcément bien. Bon, en tant que femme, souvent le poids déjà ça peut être problématique, donc là encore plus, enfin on se sentait un peu jugée. Et je me souviens, du coup, j'avais commencé les équipes de France jeunes, juniors. On avait un entraîneur à l'époque qui regardait énormément ce qu'on mangeait. Et on n'avait pas le droit de manger ci, ça. Donc c'est vrai que j'ai quand même commencé à faire très attention à ce que je mangeais.
Et c'était quoi les interdictions ? Qu'est-ce que ça devait être, ton régime ?
Alors c'était surtout tout ce qui est sucré, au niveau des desserts. Enfin, il n'y avait pas forcément de dessert. Apprendre à manger équilibré, c'est-à-dire le matin, moi à l'époque, je mangeais pain, beurre, confiture, des céréales, des choses comme ça.
Normal, quoi.
Voilà, normal. Mais au final, avec le temps, en fait, on a appris à manger un peu plus protéiné le matin, donc plus salé, avoir des collations, manger peut-être moins de... Enfin, avant, j'avais une assiette de pâtes comme ça, alors que on nous apprenait que c'était pas forcément bon de manger trop de pâtes, on n'en avait pas forcément besoin comme des sports, comme par exemple le cyclisme, où là, ils dépensent énormément de calories, donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas besoin énormément de féculents. Donc c'est l'apprentissage de toute cette façon de manger et qui au fur et à mesure des années, enfin je m'y suis beaucoup intéressée au fur et à mesure que j'avais envie de progresser et du coup on apprend à manger différemment et on fait de plus en plus attention.
Et tu penses que aussi dans les nouvelles générations peut-être de sportives, maintenant on les pèse plus comme on les pesait avant, enfin tout ce truc-là qui peut paraître aussi un peu intrusif, ouais, sur le corps de la femme, ça évolue aussi ou...
Pas tant que ça, je crois pas. Je trouve même que ça s'est accentué. Bon, par exemple dans mon club, on nous pèse une fois par mois, donc il y a un suivi. En équipe nationale, il y a un suivi de stage, enfin une à deux fois dans la semaine. Donc je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même plus ancré dans notre quotidien, mais on l'a aussi accepté. Peut-être qu'avant, comme le handball, c'était pas un sport hyper professionnel, enfin il y a 10 ans, ça a vachement évolué en 10 ans. Tout début des centres de formation, donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Avant, il y avait peut-être un coach, mais il n'était peut-être pas forcément professionnel, enfin, ou semi-pro, alors qu'aujourd'hui, il y a des vrais staffs autour des clubs, des centres de formation, et que du coup, tout est beaucoup plus cadré.
Tout le monde y pèse, aussi les hommes.
Il pèse aussi les hommes, c'est ça, exactement.
Ça va.
Donc, ça va.
Tu parce que là, on est quand même, faut le dire, dans ton restaurant.
Ouais,
c'est chic.
Ça. Ouais, c'est sympa. À la base, c'était avec une fille de mon équipe qui était espagnole, donc on a ouvert un bar à tapas. Et c'était un truc, enfin, qui me branchait vachement parce que j'aime beaucoup partager des moments comme ça autour de la nourriture et aussi autour d'un verre. Et au final, bon, cette fille est partie. Et du coup, là, on a complètement changé. Je me suis associée avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, maintenant, c'est un restaurant italien. Donc, on fait des pizzas, des salades et des brochettas. Et bon, des petites planches apéro.
Je vais prendre une pizza, je pense.
Ouais, bah les pizzas sont... Je vais aussi prendre une pizza, du coup, parce que je prends que les salades. Et c'est vrai que, bon, je vais faire un peu plaisir quand j'ai pas entraînement. Voilà. Du coup, c'était quoi tu... Diavola, tu
ouais, Diavola, je vais prendre. Diavola.
Et moi, celle du moment, du coup.
Ok.
Elle est bien.
Très, très bien.
Et toi, tu es Gaulle, du coup. Et c'est, je me suis toujours demandé qui décidait d'être Gaulle. Pourquoi on décidait d'être Gaulle?
Alors, plus jeune, on met quand même les gens un peu en surpoids dans les buts qui ne veulent pas courir et qui sont moins habiles, moins agiles sur le terrain. Aujourd'hui, bon,
c'est un peu la punition quand même.
Enfin, en guillemets, c'est un peu ça. C'est voilà, bon, bah toi, tu pas très bon, tu vas dans les buts. À l'époque, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, je sais qu'ils tournent un peu plus parce que dans les buts, on voit comparé à avant, c'est un poste où il y a besoin de qualité physique, il y a besoin d'explosivité, il y a de souplesse. C'est un poste en plus hyper important dans une équipe, enfin, voire un des plus importants. Et du coup, on met des personnes quand même aujourd'hui qui ont beaucoup plus de qualité physique. Enfin, c'est pas juste quelqu'un qui sait pas courir, quoi. On est tout le temps, en fait, sauf quand ils sont en attaque, mais à chaque fois, il y a de l'action. Enfin, il y a toujours des tirs, il y a une cinquantaine d'actions dans le match ou soixantaine en fonction des équipes.
Est-ce qu'il y a de la psychologie aussi dedans
Complètement, parce que c'est un poste où on peut être amené justement à prendre beaucoup de buts. Donc c'est un poste un peu ingrat parce que il y a des matchs où tu prends 15 buts d'affilée, t'arrives pas à t'en sortir. Donc c'est vrai que c'est un travail mental. Donc j'ai avec en équipe de France par exemple, on travaille il y a toujours un psychologue qui est avec nous pour travailler tous les aspects de la pratique. Après, il y a des préparateurs mentaux aussi des fois, quoi. Mais là aujourd'hui, on a un psychologue. Et c'est vrai que c'est un poste où tu es tout le temps en train de cogiter. Il y a un impact aussi psychologique qu'on peut avoir sur les autres joueurs. Donc c'est vrai que c'est au niveau psychologique.
C'est quoi l'impact psychologique sur les autres joueurs?
Par exemple, c'est si tu arrives à par exemple arrêter 2-3 tirs de suite et à prendre le dessus en fait sur le joueur adverse, ça peut être hyper hyper important. Donc essayer de faire basculer comme ça la charge mentale en fait au niveau de ton adversaire. Alors bon, moi je suis pas quelqu'un qui par exemple qui va crier sur l'adversaire. Alors il y a des gardiens qui sont comme ça, qui quand ils font un arrêt, ils vont crier et ça va complètement la joueuse adverse, elle va baisser la tête, elle osera plus revenir. Bon, moi c'est pas trop mon cas, mais il y en a
jamais fait.
Je l'ai jamais trop fait, sauf quand je suis très énervée ou on m'a mis un ballon dans la tête, quelque chose comme ça. Là je peux être comme ça, mais c'est vrai que c'est pas dans ma nature.
Tu as pas mal parlé et de l'intérêt de plus médiatiser les femmes dans ce sport et aussi des inégalités qu'il pouvait avoir entre les filles et les garçons. C'était important pour toi de parler de ces sujets-là?
Oui, c'était important. Enfin, c'est important parce que déjà dans le handball, déjà on est de plus en plus médiatisé. On a fait vraiment de très bons résultats, mais on voit que ça prend du temps en fait à se mettre en place, même si aujourd'hui je pense qu'il y a une réelle progression sur la médiatisation. Mais pour moi, pour que ça évolue, il faut en parler. Donc il y a des inégalités, ça c'est clair et net. Donc c'est pas juste pour dire je suis féministe, les femmes c'est comme ça, mais il y a de vraies inégalités.
Tu le sens concrètement depuis le tout début de ta carrière?
Pas forcément, parce que quand t'es jeune en fait, tu t'y intéresses pas forcément, tu t'en rends pas compte. Et je trouve que c'est plus tu vieillis, plus tu vois vraiment en fait ce qui se passe. Aussi que j'en discute avec mes homologues masculins, j'apprends des choses, je me dis non mais c'est pas possible. Enfin, en fait, moi des fois je suis sur le cul en fait quand j'entendais des trucs. Enfin, il y a des trucs, des primes sur des revendications que les hommes font et que moi en tant que femme, enfin, j'oserais même pas faire. Mais en fait les hommes ils se sentent tellement légitimes, je pense, ils se sentent tellement à l'aise, ils ont tellement été habitués, je pense, à revendiquer et à à être syndiqués, par exemple, par rapport à nous, les plus de 10 ans qui sont syndiqués, nous, c'est tout récent qu'il y ait plus de 50% des joueuses professionnelles de handball qui sont syndiquées. Et voilà, je pense qu'aussi, c'est du fait que bon, le handball se professionnalise, le sport féminin, qu'au final aussi, les joueuses et les sportives en général bah, prenaient leur retraite tôt. Et c'est que quand tu arrives à un certain âge que tu commences à revendiquer. Donc c'est sûr qu'après, quand tu sors du secteur et que tu restes pas, parce que c'est aussi souvent des milieux masculins, tout ce qui est ben, les sphères de ben, les dirigeants, les entraîneurs, c'est souvent des hommes. Ben, y a plus assez de femmes qui revendiquent, en fait, des anciennes, entre guillemets, qui peuvent revendiquer nos droits.
J'ai regardé, et ça, c'est un sujet, j'imagine aussi, quand on est joueuse. Toi, tu as toujours aimé le handball, tu commences ta carrière, tu es là pour le jeu, et parfois, tu es réduite aussi à ton genre de femme.
Oui, complètement. Je trouve, ben, du fait qu'on soit pratiquement uniquement entraîné par des hommes, dirigé par des hommes, bah souvent il y a des remarques qui, enfin moi aujourd'hui, qui passent beaucoup moins, qui passent plus même qu'avant. Avant pour moi c'était normal. Enfin, comme quand on connaît pas et qu'on s'y intéresse pas, bah, voilà, c'est normal quand on est jeune, entre guillemets. Mais aujourd'hui moi ça passe plus du tout quand j'entends des remarques d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a des entraîneurs qui viennent chez les femmes et qui venaient du secteur masculin. Et donc ça, c'est mon avis. Qui, par exemple, ne trouvent pas de poste chez les hommes, donc ils se rabattent chez les femmes. Il y a des commentaires, des fois, où c'est, par exemple, « Ah, bah, chez les hommes, de toute façon, bon, vous savez pas faire ça. Chez les hommes, c'est comme ça. Bah, » Moi, ça me fout les boules. J'ai envie d'exploser, quoi. Donc c'est sûr que, si, c'est quand même un peu sexiste, mais c'est pas sur le physique. Donc encore, ça passe. Mais quand c'est sur le physique, moi, là, moi, y a pas... J'y vais pas par quatre chemins. Hein.
Voilà. T'as jamais eu peur que ça t'empêche d'avoir du travail ou qu'on...
Non, pas du tout. Alors, je sais que ça peut porter préjudice, enfin, des fois. Il y a des hommes qui acceptent pas le fait qu'on dise ce qu'on pense. Je sais que souvent, ils aiment pas qu'on ait des grandes gueules. Il y a des clubs, ils préfèrent avoir des filles qui disent rien et qui, voilà, qui suivent tout simplement juste ce qu'il y a à faire. Mais pour moi...
Ils sont pas les meilleures joueuses.
Exactement. Et pour moi, sur le terrain, t'es obligé d'avoir du caractère. Enfin, t'es obligé d'avoir des joueuses de caractère. Tu peux pas que avoir... Pour moi, il faut avoir du caractère sur le terrain.
Merci. On reçoit les pizzas, là.
Ouais.
Qui sont très belles. Waouh, merci. Ah, tu mets sauce piquante. Ah,
moi, j'aime bien.
Moi aussi, j'aime bien. Mais généralement...
J'aime bien ce qui est épicé. Ouais, après là, tu verras. Là,
c'est déjà un peu épicé, ouais. Et tu parlais aussi du fait d'être syndiquée. Et il y a aussi la problématique du congé maternité quand on est une femme et qu'on est enceinte dans le sport. C'est-à-dire qu'un congé maternité de 3 mois, ça ne va peut-être pas suffire quand on est sportive.
Moi, je me suis arrêtée au bout d'un mois et demi. Alors, parce que bon, le handball, c'est quand même un sport de contact. Et pour moi, il est inconcevable de prendre un risque, en fait, sur une grossesse. Donc pour moi, il est inconcevable qu'une femme enceinte, en fait, soit sur un terrain. Ça, c'est mon avis. Oui, parce qu'avant, en fait, quand il n'y avait pas cette convention, on n'avait que 3 mois, en fait, de maintien de salaire. Ça peut être un frein. Donc là, aujourd'hui, c'est passé à 1 an. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'en parler. Et, bon, même si c'est pas moi qui ai créé cette convention hein, collective, Diane, mais en tout cas, de la promouvoir, c'est important pour moi.
Et tu as fait la une de ce magazine, du coup. J'ai lu qu'il avait aussi élu sportive la plus sexy de l'année 2012. Et ça, j'imagine qu'ils ne doivent plus faire ce genre de classement maintenant en 2022. Mais toi, à l'époque, tu avais réagi comment? Et maintenant, comment tu le perçois 10 ans plus tard?
Non, mais c'est un truc de fou parce qu'à l'époque, donc c'était en 2012, ouais, j'avais 22, 23 ans. J'avais 22 ans parce que c'était bien. Et je l'avais bien pris. En fait, c'est ça qui est fou. Je l'avais bien pris, je trouvais ça, ah ouais, tiens, enfin bon, c'est sympa, c'est gentil. Voilà, c'était avant les jeux, donc je sais pas, j'étais déjà heureuse d'être là, qu'on me connaisse, voilà quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passerait plus du tout, alors, enfin, je trouve ça grave quoi quand même, mais bon, à l'époque, ça m'avait pas du tout posé de problème, et je l'avais même bien pris en fait, donc.
Je viens d'allonger. Est-ce que t'as le trac, toi, Cléopâtre, avant de monter, j'allais dire sur scène, mais c'est presque ça quand tu fais un match.
Ça dépend des matchs, mais en général, oui, quand même. la journée, par exemple, la journée du match, c'est toujours particulier, il y a toujours un peu de stress.
Tu fais comment pour le gérer ?
Je me rassure un peu avec mes routines, tu vois. C'est vrai que j'ai un peu toujours la même façon de faire, un peu de sieste, un peu de trucs, mais c'est vrai que c'est une journée particulière, je suis assez stressée et je pense que tout le monde l'est. Au final, des fois, on se l'avoue pas.
Et c'est quoi, qu'est-ce que tu manges avant un match ?
Alors, je mange, donc midi, c'est toujours du riz, parce que bon, je mange plus de pâtes ou quoi, donc plutôt riz et une viande et des légumes. Donc assez basique, hein. Ça je mange le midi, donc souvent je joue vers 20h et après je mange une collation 3h avant le match. Donc la collation c'est toujours aussi basse protéine, alors souvent je mange du blanc de poulet par exemple avec soit une tranche de pain, un fruit, café. Je bois beaucoup de café quand même, jour de match je bois beaucoup de café, ça me déstresse aussi.
Ouais. Ce serait plutôt le contraire normalement.
Ouais, du coup j'avoue que même des fois j'abuse parce que j'en bois tellement que justement je tremble carrément tellement que j'en ai vu, donc je me suis un peu calmée là-dessus.
Et toi, Cléopâtre, là, t'as re-signé, j'ai lu, pour 2 ans. Donc ça avait l'air d'être une très bonne nouvelle dans les médias pour tout le monde et pour les supporters du club aussi.
Ouais, c'est clair. C'était, pour moi, c'était un souhait. Le club aussi, les supporters, j'ai eu énormément de soutien. Je sais que je les apprécie et qu'ils m'apprécient. Donc c'est une re-signature dans un bon climat et je pense que tout le monde est content.
Et après ces 2 ans que tu vas... Donc ça nous amène à 2024.
Donc oui, voilà, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à Paris 2024. Et après... je verrai. Pour l'instant, je me suis donné ça comme objectif. C'est vraiment... Je vais me donner tous les moyens pour être au taquet à ce moment-là. Et ensuite, je verrai si je continue ou pas.
C'est bien de ne pas fermer.
Oui, voilà. Au départ... Alors, pour mon mari, c'était important qu'il ait une date. Parce que lui, il aime beaucoup se projeter. Et déjà, j'ai déjà un enfant, mais on aimerait bien un deuxième. Et lui... c'est pas forcément facile non plus pour les conjoints, justement, parce que lui, il est à la maison. Moi, je pars souvent. Quand je suis en compétition, je pars un mois. Il est un mois toute seule avec la petite. Les jeux, c'était 2 mois. Et même au quotidien, même si je pars pas un mois, je pars souvent dans la semaine, 3-4 jours. Donc c'est vrai que c'est un rythme assez difficile. Donc pour lui, c'est aussi important d'avoir au moins une perspective de se dire, bon, dans 2 ans, au moins, peut-être qu'on pourra avoir une vie normale. Mais si à ce moment-là, on a trouvé un équilibre et que peut-être pourquoi pas continuer, peut-être qu'en club ou qu'en équipe de France, je crois que c'est pas possible. Mais...
T'as pas du tout envie d'arrêter pour le moment en tout cas.
Mais aujourd'hui, non, j'ai pas forcément envie d'arrêter parce que je prends encore beaucoup de plaisir.
J'ai laissé Cléopâtre à Brest et je suis repartie prendre mon train parisien. Non sans avoir acheté des petites galettes bretonnes et des sardines. Pour continuer à suivre l'actualité de Cléopâtre, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à sa page Instagram et à son site internet cléopâtredarleux.com. Et évidemment, je vous encourage aussi à suivre ses matchs avec Brest et l'équipe de France. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch.
Vous pouvez choisir 3 personnes avec lesquelles déjeuner ou dîner, vivantes ou mortes. Pas obligé de dire des joueurs de handball. Hein.
Ouais, non, bien sûr. Mais je dirais quand même un. Donc c'est Philippe Médard. Donc c'est mon ancien. C'est un ancien gardien de l'équipe de France qui était aux Jeux de Barcelone 92. Il a gagné une médaille et il m'a entraîné ma première année pro quand j'étais à Paris. Et il est décédé il y a quelques années. Et ça a été quelqu'un quand même de marquant, de part déjà, ce qu'il m'a apporté. Au niveau du handball, ça a été un monument aussi. Donc c'est vrai que j'ai toujours une petite pensée pour lui. J'aime bien Camille Lelouch parce qu'elle me fait beaucoup rire. J'adore, j'aimerais bien qu'elle me fasse rire à table. Je pense qu'on rigolerait bien. Quelqu'un d'autre, je sais pas. Ah non, mais c'est fou ça. J'ai eu Brad Pitt qui m'est venu comme ça.
Ah bah si, c'est une bonne idée. En plus,
c'est pas mal.
Il paraît qu'il est célibataire et qu'il cherche l'amour.
Ah bon, super. Bon, je ne suis pas, mais bon, le temps d'une soirée, on rigolera bien en tout cas.
C'est un repas un peu fantasmé. Bon, ouais, voilà, ça reste dans ce repas. Quoi.
Ouais, exactement. Voilà. C'est marrant, casting. Ça m'est venu à l'esprit comme ça. Je me dis non, je vais pas dire ça quand même. Je me dis bon, voilà, ce qui vient à l'esprit.
Tu vas avoir un message de Brad Pitt sur ton Instagram.
C'est ça.
Bonjour Cléopâtre.
C'est vraiment improbable. Hein. Ouais. Je pense qu'il connaît pas du tout le handball aux États-Unis. C'est pas encore venu jusque là-bas.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.